It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Arthur Merle, journaliste à Eurosport, et je sens déjà la déception à distance chez les auditeurs de ne pas entendre ni Martin Mosnier, ni Maxime Dupuis dans les oreilles. Est-ce que ça vous réconfortera si je vous annonce le nom de celui qui m'accompagne ce vendredi, à savoir un revenant qu'on n'a plus vu dans une émission Eurosport Football Club depuis l'été dernier, et mercredi Mercato? La personne de Glenn Cellier. Salut Glenn, comment ça va?
Salut Arthur, ça va très bien, merci. J'ai évidemment une petite pensée pour nos deux amis qui se dorment la pilule au soleil,
ouais, clairement.
Tranquillement, pendant que d'autres bossent, ils ont la belle vie. Mais alors, ravi d'être là et du coup, hâte de parler parce qu'il y a pas mal de sujets chauds qui font l'actualité.
Effectivement, on va commencer par un sujet Ligue des Champions, ou en tout cas Coupe d'Europe plus globalement. On va revenir sur les éliminations du Paris Saint-Germain en demi-finale de C1, de l'OM en demi-finale de C3, c'était mardi puis jeudi. Est-ce que ces éliminations sont des fiascos? Est-ce qu'on peut employer des mots forts comme un petit peu honteux même? Eh bien, on va se poser cette question dans le premier sujet de cette émission.
Et le deuxième sujet, on va parler de la Ligue 1 avec un club qui régale le championnat de France depuis quelques semaines. On parle de Lyon parce que c'est un vrai plaisir de les voir jouer. Et on va se projeter un peu sur l'Europe, essayer de se demander s'ils ne sont pas un peu sur la voie royale, les Lyonnais.
Et puis on terminera avec un sujet équipe de France. Alors Martin et Maxime, vous parlez déjà de la blessure longue durée de Lucas Hernandez et du coup dur énorme que ça représentait pour l'équipe de France dans la Stream Team de vendredi dernier. Et bien là, on va rebondir sur la blessure de Aurélien Tchouaméni, alors qui n'est pas actuellement forfait pour l'Euro, mais qui pourrait y arriver, en tout cas un petit peu incertain. Et on va se demander plus globalement s'il faut s'inquiéter pour l'équipe de France dans son intégralité avant la liste que communiquera Didier Deschamps jeudi, la liste pour l'Euro. Bien évidemment. On va peut-être faire le rappel habituel avant de se lancer, Glenn.
Tu me laisses gérer.
Tu m'as demandé, il faut le préciser quand même, je compte sur toi pour me prendre par la main
oui,
dans l'ascenseur pour descendre
ça
au studio.
Ça fait quelques mois que je n'ai pas eu cette joie, donc je voilà. Te laisse guider. Donc,
je prends les auditeurs par la main, en tout cas pour leur rappeler la même chose que d'habitude. Le FC Stream Team est à retrouver sur toutes vos plateformes de podcast. Pour ça, il vous suffit de taper Eurosport Football Club dans la barre de recherche. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, la petite cloche, tout ça, vous connaissez les commentaires, même, c'est toujours appréciable de savoir ce que vous en pensez. Et je crois qu'on est bon et qu'on va pouvoir...
Je réfléchis à cette petite cloche, du coup.
Ouais, la petite cloche, la petite alerte pour recevoir les épisodes.
Je pensais à Pâques, je sais pas pourquoi.
Ouais, pourquoi pas. Je pensais plus réseaux sociaux, moi.
C'est un autre débat.
Allez, on va se lancer sur ce premier sujet, Glenn. On l'a dit, on va rebondir sur les grosses déceptions de cette semaine. On le rappelle, le Paris Saint-Germain a été battu une deuxième fois par le Borussia Dortmund mardi soir. Deuxième défaite de suite, 1-0, donc élimination en demi-finale de Ligue des Champions. Deux jours plus tard, l'OM qui est terrassé jeudi soir à Bergame contre l'Atalanta 3-0, ils n'y ont même pas cru. Glenn, je te pose la question, est-ce qu'on peut parler de fiasco sur ces deux demi-finales?
Sur les demi-finales, oui, pour moi c'est un fiasco parce que c'est compliqué, évidemment, on sait, Marseille, il y a beaucoup de limites, mais ils ont été rattrapés de manière fracassante, j'allais dire, pendant cette demi-finale retour. Je vous rappelle juste que l'Atalanta a fait un match monstrueux, ils ont clairement dominé l'OM, mais sur le papier, ils ne sont que cinquième de Serie A, ce qui fait que quand même, on pouvait se dire qu'il y avait quelque chose à jouer pour Marseille, même si, évidemment, la saison de Marseille était en demi-finale de la Ligue Europa, étant donné la saison de Marseille, c'était déjà un peu, j'allais dire, miraculeux, mais pas loin. L'autre, évidemment, c'est le PSG. Alors, on a mis malchance, parce qu'évidemment, ils ont trouvé les montants à plusieurs reprises mardi soir. Mais sur le fond, pour moi, c'est un fiasco. Ils jouent Dortmund. Ils ont eu un tirage au sort hyper clément depuis les huitièmes de finale entre la Real Sociedad, un Barça qui n'est quand même pas le grand Barça, et Dortmund qui est quand même, pareil, cinquième de Bundesliga. Voir Paris ne pas être capable de marquer contre le Borussia Dortmund en demi-finale de Ligue des Champions, il a manqué énormément de choses aux Parisiens. Oui, c'est un fiasco pour moi, c'est un fiasco pour le football français, parce que les deux clubs s'arrêtent en demi-finale encore une fois, et on voit encore une fois les limites du football français, je trouve, sur ces demi-finales-là.
Effectivement, alors je suis assez d'accord avec toi, c'est quand même important quand même de rappeler le contexte d'où ils venaient, oui, ces clubs-là. Effectivement, l'OM, saison un petit peu chaotique, ils ont eu 3 coachs cette saison, ça galère énormément à l'extérieur, donc à la limite, les retrouver en demi-finale de Ligue Europa, je pense qu'ils signaient en début de saison. Oui, le PSG, pareil. Le PSG, quand Nasser Al-Khelaïfi se présente en conférence de presse l'été dernier, accompagné de Luis Enrique pour le présenter, le discours, il est clair. On n'est pas là pour viser ou en tout cas faire de la Ligue des Champions une obsession dès cette saison. Nouveau projet qui démarre. Donc, même chose, se retrouver en demi, je pense qu'ils auraient signé en début de saison. Mais sur la forme, sur ces deux matchs-là, tu as commencé à le dire. C'est vrai que avoir l'impression qu'il y avait 3 classes d'écart entre l'Atalanta et l'OM, c'est quand même gênant. Ouais. Quand tu rappelles que l'Atalanta est 5e de Serie A, d'autant plus qu'il y avait match à l'aller. C'est pas l'Inter, même vu un OM qui a dominé. On pouvait ressortir de ce match aller avec des espoirs pour l'OM. Ils ont été complètement balayés au retour, où vraiment on a vu des petits garçons à Bergame, des petits garçons. Quand on voit Jonathan Klose qui, au bout d'une demi-heure de jeu, est complètement cramé, revient en marchant, et donc ce repli insuffisant coûte en partie le premier but à l'OM. C'est quand même alarmant. On rappelle que les deux clubs français ont été exemptés de Ligue 1, qu'ils étaient censés être frais, et qu'au bout d'une demi-heure, il n'y a plus aucun Marseillais qui n'a rien dans les chaussettes contre l'Atalanta. Donc ça pose quand même question. Et puis le PSG, effectivement, je me suis amusé à regarder. Il y a un seul club en Bundesliga qui n'a pas pris de but à l'aller comme au retour, qui n'a pas marqué, pardon, à l'aller comme au retour contre Dortmund, c'est Cologne. Je crois qu'ils sont avant-dernier de Bundesliga. Je crois que ça en dit assez long sur ce que ça représente pour Paris de ne pas être capable de mettre un but sur l'aller et le retour contre le Borussia Dortmund. Et Kylian Mbappé, il l'a très bien dit lui-même, les poteaux c'est une chose, mais en fait quand on domine et quand on mérite de marquer, il n'y a pas les poteaux qui sont là pour vous empêcher de le faire. Donc effectivement, ça fait tâche, et en fait on a des demi-finales qui nous ramène violemment à la réalité de ce qu'est le football français. Un foot français qui n'a pas connu de finale européenne depuis Paris 2020. La fameuse finale contre Bayern.
Et c'est un contexte très particulier, 2020.
Et 2020, effectivement, contexte bien particulier. Avant ça, c'était l'OM en 2018, finale de Ligue Europa perdue. À l'arrivée, ça vous fait quoi? Ça vous fait 4 finales en 24 ans. 4 finales dans les années 2000 pour les clubs français, une tous les 6 ans. Je crois qu'en termes de moyenne, c'est juste catastrophique.
Ce qui pose question, parce qu'en gros, clairement, ces demi-finales ont rappelé les limites du football français, des clubs français en Europe notamment. Alors bien sûr, il y a une question de moyens, parce qu'on le sait, entre les droits TV, etc., à part le PSG qui est dans une dimension à part, évidemment, les clubs français n'ont pas forcément les mêmes moyens que certains grands pensionnaires des autres championnats européen. Mais sur le fond, pour moi, ce qui interroge, c'est notamment la culture de la gagne du football français. C'est-à-dire que il y a Paris et Marseille, il n'y a pas eu ce dépassement de fonction, j'allais dire, il n'y a pas eu ce dépassement d'envie, cette envie de se surpasser pour aller chercher cette petite cerise avec une finale européenne. Et c'est ça, moi, qui me déçoit. C'est qu'en gros, que ce soit Paris au retour au Parc des Princes, en plus, dans un Parc des Princes en ébullition qui était là pour pousser, j'ai pas eu l'impression que Paris se soit surpassé à ce moment-là dans l'envie. Ils ont joué quoi? Ils ont joué une mi-temps sur les 4 au final, Paris.
Ouais, t'es gentil. Ouais,
ouais, ouais,
même l'ultra-domination parisienne sur l'aller-retour, elle se résume à 10-15 minutes.
Ouais, c'est ça. Et en gros, que ce soit Paris et Marseille, ils n'ont pas pris la mesure de l'événement, j'allais dire, de jouer une demi-finale européenne, de montrer peut-être d'aller chercher ce surplus qui permet d'aller justement un peu plus loin en Europe. Et c'est sur le long terme maintenant qu'on peut faire ce constat-là. Et c'est ce qui me déçoit, parce que voilà, je pense qu'il y avait des coups à jouer, parce que même si l'Atalanta est une belle équipe, c'est quand même l'Atalanta et Dortmund en face.
C'est une très belle équipe, mais c'est une équipe qui, rappelons-le, va disputer la première finale européenne de son histoire. Ouais. C'est pas une équipe qui a une forte culture, une forte habitude des hauteurs européennes. Donc c'est ça. Et pourtant, eux, ils ont eu cette attitude-là. Ils ont eu cette attitude d'équipe qui va chercher une finale. Et tu parlais de moyens tout à l'heure. Bien sûr qu'il y a un gap énorme entre l'Angleterre et la France, par exemple.
Ouais.
Mais là, Dortmund, Alors, il faudrait vérifier les budgets. Je ne sais pas quel est l'écart de budget entre Dortmund et l'OM, par exemple, même si ce n'est pas ces deux équipes-là qu'il faut comparer. Mais on voit aussi la Fiorentina. Fiorentina, Ligue Europa Conférence, ils disputent leur deuxième finale de Ligue Europa Conférence d'affilée. Ça nous renvoie à quoi ? À un OM qui, il y a 2 ans en arrière, si je ne dis pas de bêtises, est incapable de bousculer Feyenoord aux portes d'une finale de Ligue Europa Conférence, qui était largement à sa portée. Donc, ouais, c'est problématique, c'est même un peu usant à la longue. Et là, si on parlait de Ligue Europa Conférence, on peut voilà, élargir encore un peu plus. Lille, qui oui, a regardé Aston Villa droit dans les yeux, c'était super intéressant. Belle double confrontation, mais à l'arrivée, qui a le vice ? Qui a le petit truc en plus qui fait que bah, tu te qualifies à l'arrivée pour le dernier carré ? Et bah, c'est Aston Villa, c'est pas Lille. Donc... bah ouais, c'est un peu déprimant à la longue parce qu'il y avait quand même les armes pour avoir au moins un club en finale cette année par rapport au tirage aussi que les clubs français ont.
Ouais, et je pense qu'il y a quelque chose à travailler au sein des clubs peut-être parce que pour moi, il n'y a pas qu'une question de qualité, il y a une question mentale aussi.
Culture,
et ouais. Voilà, de culture, et ça, c'est quelque chose malheureusement qui est évidemment compliqué à gagner, à mettre en place, mais il n'empêche, il faut se poser les bonnes questions pour réussir à passer quelques paliers parce que. La Ligue des Champions, on le sait, à part le PSG, c'est quelque chose de très difficile à atteindre. Même si là, Dortmund est l'exemple typique du club qui montre qu'avec des moyens un peu limités par rapport à d'autres, qui peuvent aller en finale de Ligue des Champions. Voilà, les clubs français feraient bien de temps en temps de
s'inspirer. Même l'Inter la saison dernière.
Ouais.
L'Inter, c'est, sur les dernières années, ce n'est pas un club qui dépense des centaines de millions d'euros. C'est un club qui a bien travaillé sur la durée.
Bien construit.
Donc effectivement, on a des exemples sur lesquels s'appuyer. Ce n'est pas comme si c'était toujours les mêmes qui arrivaient en finale. On a quelques surprises ces dernières années, que ce soit en Ligue des Champions et dans les autres compétitions. Voilà, aux clubs français de s'en inspirer.
On parle de clubs français ?
On va enchaîner avec un club qui ne joue pas la Ligue des Champions.
Eh non,
qui est loin de la jouer.
L'année prochaine.
L'Olympique Lyonnais, Glenn. L'Olympique Lyonnais qui est le tube de cette année 2024 en Ligue 1.
Ouais, et qui fait des super performances ces dernières semaines. On l'a vu avec le fameux 4-3 contre Lille, renversant contre Lille, fantastique en termes de scénario. Avant, il y avait déjà eu la victoire contre Monaco, 3-2. Alors, bien sûr, il y a eu la petite défaite face au PSG, fait au petit 4-1. Mais il y a aussi eu le match hyper spectaculaire contre Brest, 4-3. Il y a eu aussi la victoire contre Nantes, 3-1. Tout ça pour dire, c'est une équipe où, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Lyon, quand on les regarde jouer, on prend plaisir à les regarder jouer. Et évidemment, il y a plusieurs explications à ça, Arthur.
Ouais, effectivement. Équipe, on ne peut pas lui reprocher de ne pas être spectaculaire dans un sens ou dans l'autre. Hein, parce qu'au milieu de toutes ces victoires, il y a aussi la défaite cuisante contre Paris, 4-1. Ça aurait même pu faire encore plus lourd à l'arrivée. Lyon, je crois que c'est avec Metz l'équipe qui fait le moins de matchs nuls en Ligue 1. Donc ça vous pose un peu les bases d'une équipe avec laquelle il se passe toujours quelque chose. Il y a très rarement des 0-0 ennuyeux. Et dernière statistique pour se plonger un peu plus dans notre sujet, Lyon a pris 22 points après avoir été mené au score depuis que Pierre Sage est sur son banc. Il n'y a personne qui fait aussi bien sur la période dans les 5 grands championnats européens. Donc là, vous avez les bases statistiques et les derniers résultats un petit peu posés. Qu'est-ce qui explique ça ? Ce qui explique ça, c'est avant tout le fait que Lyon est une équipe transformée depuis son mercato d'hiver. Ça, c'est une certitude. On a déjà parlé du mercato de l'OL, mais c'est toujours bon de le rappeler. Mercato hivernal le plus dépensier en Europe, plus de 50 millions d'euros. Donc Lyon a complètement transformé son équipe. Matic au milieu de terrain qui déjà apporte énormément et puis qui, par la même occasion, transforme Maxence Caqueret. Benrahma, côté gauche, qui fait aussi de très belles prestations. Et puis, globalement, une émulation et une concurrence beaucoup plus importante aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant, quand c'est Jeffinho qui rentrait et qui ne faisait rien, aujourd'hui, c'est Malik Fofana qui vient mettre la pression et qui marque des buts en plus. Donc, aujourd'hui, Pierre Sage, il a ce que n'avait pas l'OL avant, une équipe type et de la concurrence. Et puis, voilà, on a une équipe qui ne maîtrise pas toujours grand-chose, mais qui aime et qui se complaît en fait dans cette espèce de chaos. Donc ça donne des matchs hyper spectaculaires.
Ouais, des matchs où on ne s'embête pas. Il faut quand même rappeler, Lyon avait 7 points après 14 journées. À l'époque, on leur promettait clairement la relégation. Toutes les statistiques allaient dans ce sens-là. Normalement, un club qui a ce bilan-là à ce moment de la saison finit en deuxième division.
Ouais.
Lyon a su trouver, ce que tu as dit, avec Pierre Sage aussi, évidemment, a su trouver les ficelles pour construire, se remettre dans le bon sens, grâce aussi à des leaders, je pense à Lacazette, évidemment, qui répondent présents. Voilà, il y a plein d'ingrédients, et du coup, on entrevoit l'Europe, parce que Lyon, maintenant, alors qu'ils étaient dans une position catastrophique aux portes de l'enfer, se retrouve, alors pas aux portes du paradis, parce que c'est pas l'Europe, c'est pas la Ligue des Champions, bien sûr, mais il n'empêche, ils pourraient jouer la Coupe d'Europe, et pour moi, ils sont même presque sur une voie royale. Alors évidemment, parce qu'il y a la finale de Coupe de France dans pas longtemps contre le PSG, mais aussi parce qu'en championnat, quand on regarde le classement, là, ils sont 7e, et pour moi, ils ont toutes les cartes en main pour aller chercher cette 7e place, ou peut-être même un peu plus.
Effectivement. Ceux qui verront la pastille vidéo de ce sujet auront les classements sous les yeux. Pour ceux qui nous écoutent seulement, Lyon est 7e, donc à 2 points de la 6e place occupée par Lens. Et ils ont pour le moment 3 points d'avance, par exemple, sur l'OM, qui a un match de retard, et ils ont 2 points d'avance sur Rennes. Donc, intéressant, surtout que Lyon, on a rappelé les derniers résultats, a passé le côté très critique de son calendrier en battant tous les gros, et sauf Paris, et a maintenant Clermont, donc Lanterne Rouge, qui n'arrive plus à mettre un pied devant l'autre, et Strasbourg, qui n'a plus rien à jouer sur la fin de saison. Si on compare avec les autres, Rennes, il y aura donc un match contre Lens et contre Montpellier. Lens, contre Rennes et contre Reims. Et puis l'OM, c'est Lorient et 2 déplacements à Reims et au Havre. Et quand on connaît le bilan cataclysmique de l'OM à l'extérieur, pire bilan de Ligue 1 avec Clermont, ça prête pas forcément à l'optimisme pour Marseille. Donc
et
effectivement,
l'OM, en plus, je suis désolé, je te coupe Arthur, mais l'OM en plus va devoir digérer aussi ce fiasco européen.
Il y a ça aussi, comment ils vont s'en relever.
Parce que sortir de Coupe d'Europe, c'est ce que on disait tout à l'heure dans le premier sujet, évidemment, l'OM n'était pas forcément programmé pour aller en demi-finale de Ligue Europa cette année. Mais il n'empêche, il faut digérer ce 3-0, cette claque qui va rester, à mon avis, dans l'esprit des Marseillais pendant quelques temps. Donc ça va être compliqué de se replonger dans ce sprint final de championnat, où en plus, évidemment, il y a une place européenne, mais c'est une place en Ligue Europa Conférence à aller chercher. Ce n'est pas forcément ce qui peut exciter les Marseillais.
Alors, on va rappeler qu'il y a 2 options pour l'OL, et d'ailleurs, pour certains autres, on verra aussi que ça peut en dépendre. L'OL, si l'OL remporte la finale de la Coupe de France contre le PSG, ce sera une qualification pour la Ligue Europa. En revanche, si c'est le PSG qui remporte cette Coupe de France, ça va libérer une place de plus, qui serait donc la 7e place qualificative pour les barrages de la Ligue Europa Conférence. Même chose d'ailleurs si l'OL, je vais y arriver, termine 6e voire 5e et que l'Olympique Lyonnais remporte la Coupe de France, là, même chose, ça va libérer la 7e place pour l'Europe. Donc ça nous ferait une place en plus en Coupe d'Europe, on cracherait pas dessus. Après, on va quand même mettre un bémol à l'OL, c'est que c'est une équipe qui est constamment sur un fil. Constamment.
Ça manque de maîtrise.
Donc il n'y a pas grand-chose de très maîtrisé. Bien sûr que au fur et à mesure du temps, Pierre Sage a réussi à travailler des schémas. Il y a des choses dans le jeu qu'on voit se répéter semaine après semaine. Donc bien sûr qu'il y a des certitudes qu'il n'y avait pas avant. Mais il y a aussi cette sensation que tous ces petits coups du destin qui ne tournaient pas en faveur de l'OL avant tournent maintenant. Ce qui était contré avant, ça passe entre les jambes maintenant. Les décisions arbitrales qui étaient plutôt, sans rentrer dans des clichés, mais qui étaient plutôt contre l'OL en première partie de saison, peuvent plutôt basculer en faveur de l'OL maintenant, quand il y a litige en tout cas. Donc c'est toutes ces petites choses-là qui font que l'OL ne maîtrise pas tout non plus. On le voit, il n'y a jamais de victoire tranquille dans tout ce qu'on vient d'évoquer. Jamais. C'est toujours des scénarios complètement alambiqués. Il y a souvent Là, il y a eu deux victoires récemment où il y avait 2 buts de retard à remonter et où des équipes se sont sabordées. Brest s'est un peu sabordé. Lille s'est complètement sabordé tactiquement comme dans le jeu dans cette défaite contre l'OL. Donc rappelons que dans cette course à l'Europe via le championnat ou dans cette finale de Coupe de France à venir contre le PSG, attention, on connaît l'OL, on sait qu'ils peuvent très bien aller perdre à Clermont dès dimanche.
Ah oui, mais c'est le charme de cette OL là, c'est-à-dire que justement, c'est des matchs qu'on a. Moi, par exemple, sur la fin de saison, c'est des matchs que j'ai envie de regarder parce que je sais qu'il va se passer des choses et je sais que, qu'importe le scénario, en plus, il pourra encore se passer quelque chose. C'est-à-dire que, c'est ce que tu dis, il n'y a pas de maîtrise en ce moment des Lyonnais, aucune presque. Mais voilà, c'est ce qui rend leur match attrayant, leur match aussi agréable à regarder, parce qu'on s'ennuie jamais en ce moment en regardant Lyon. Mais c'est marrant, quand je vois leur dynamique, etc., ce qui monte depuis quelques semaines, j'ai presque envie de croire qu'ils seront capables d'aller chercher cette 6e place même. Parce que quand je vois leur calendrier et celui des autres, et leur dynamique évidemment, je me dis, 6e place, et dans ce cas-là, on pourra réfléchir peut-être parce que sur la deuxième partie de saison en 2024, c'est quand même l'équipe avec le plus de points avec le PSG en 2024.
On l'a pas rappelé, même avant le match en retard du PSG, Lyon est premier de Ligue 1 sur l'année 2024 avec un point de plus que le PSG.
Ce qui veut dire quand même pas mal de choses. C'est ce que tu as dit. Évidemment, il y a le mercato qui a transcendé cette équipe lyonnaise, mais il n'empêche le projet de John Textor qui faisait rire beaucoup de monde il y a encore 8 mois, bah, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Alors évidemment, c'est écrit sur du sable, tout peut partir, ouais. C'est ce que tu dis, parce qu'on voit bien qu'il y a un manque de maîtrise, il y a beaucoup de choses qui font dire que, bon, je ne suis pas sûr que sur le long terme, ce soit hyper prometteur, mais il y a quelque chose qui s'est mis en place, et voilà, ça peut, c'est le genre de truc où on ne sait jamais ce qui peut se passer, s'il y a l'Europe, si après, derrière, il y a encore un mercato qui permet de renforcer l'équipe, si des cadres restent, si Pierre Sage peut-être, ça on verra.
Bah, ça c'est quand même une question essentielle, ouais. Parce qu'on parle de projet de John Textor, mais pour l'instant, je crois que c'est Pierre Sage qui le disait après la dernière victoire lyonnaise, il n'y a toujours pas de discussion pour sa prolongation de contrat. Donc là, on est quand même sur un gros point d'interrogation que je trouve, de mon côté, très très étonnant.
Ouais,
donc,
vu ce qu'il,
attention, on va prendre des grosses pincettes sur le projet John Textor, ouais. Parce que là, on est sur une équipe en feu avec des recrues qui marchent bien tout de suite, mais attendons de voir ce qui va se passer cet été.
Mon propos, c'était vraiment de dire qu'il avait le projet avait, enfin, en gros, que Lyon avait réussi à se remettre dans le bon sens.
En tout cas, Lyon a évité la catastrophe industrielle, ouais, c'est, et c'est bien le plus important pour l'OL cette saison, qui en plus régale les supporters lyonnais et même les spectateurs neutres de ces matchs. Glenn, on va basculer sur la page football international,
ouais,
qui régale un petit peu moins. C'est la page équipe de France, parce que cette semaine, on a vu, lors de la qualification du Real Madrid, l'énième qualification madrilène en finale de Ligue des Champions, qu'Aurélien Tchouaméni s'est blessé.
Fracture de fatigue, ouais. Au cinquième métatarse, sauf erreur de ma part.
Ouais.
Et du coup, ça pose pas mal de questions, parce que en gros, alors pour le moment, il y a eu un temps de, en gros, on parle de 4 semaines d'absence possiblement. Donc ouais. Le Real pourrait espérer l'avoir pour la finale de Ligue des Champions.
Alors, plutôt pessimiste, hein. Mais c'est voilà. Plutôt dans le groupe, c'était, mais vraiment pas sûr de jouer.
C'est pas gagné. Et du coup, ça pose aussi question, évidemment, sur l'Euro qui arrive dans un mois maintenant.
Un mois et demi, ouais.
Et du coup, voilà, parce que entre Lucas Hernandez la semaine dernière, ça commence à faire beaucoup. Lyon, on sait la défense. Maxime et Martin en ont parlé la semaine dernière. Il y a beaucoup d'incertitudes sur la défense des Bleus avant cet Euro. Et là, en fait, au milieu de terrain, là, si Tchouaméni n'est pas là ou s'il doit rater les premiers jours, les premiers matchs de cet Euro, ça pose beaucoup de questions parce que c'est quand même l'un des piliers. C'est du milieu de terrain, c'est peut-être celui qui permet d'avoir l'équilibre au milieu de terrain. C'était l'une des... bon, on sait l'attaque, on sait où on va, on connaît les qualités de l'attaque, même si on attend encore d'avoir tous les hommes devant. Le milieu de terrain, on savait exactement où on allait, entre Rabiot, Tchouaméni et Griezmann. Là, s'il n'y a pas cette sentinelle-là, c'est tout l'équilibre du milieu qui peut être remis en question et du coup, l'équilibre de l'équipe.
Oui, effectivement, Glenn. On va rappeler les dates clés pour bien situer les enjeux en termes de durée. On est à 5 semaines de l'Euro. La liste de Didier Deschamps pour l'Euro, elle sera communiquée jeudi à 20h. Et le sélectionneur des Bleus, il aura jusqu'au 7 juin pour transmettre sa liste définitive à l'UEFA. Sa liste, on le précise, on le rappelle, de 26 joueurs. C'est la nouveauté de cette année. Ce qui permet quand même à Didier Deschamps d'avoir plus de latitude et de plus se permettre, lui qui n'est vraiment pas un fan de ça, bah, d'emmener un ou deux joueurs qui seraient un petit peu plus, un peu plus incertains. Donc ça, c'est déjà la première chose. Mais effectivement, Martin, Maxime parlaient très bien des incertitudes qui entouraient la défense des Bleus. On le rappelle très rapidement, Maignan qui a quand même enchaîné des pépins physiques. Saliba qui est très bien, qui fait une grosse saison, mais qui n'a jamais prouvé en équipe de France qu'il était capable de répéter les mêmes performances. Upamecano qui est sur le banc au Bayern parce qu'il a fait trop de grosses erreurs. Konaté, incertitude physique. Lucas qui n'est pas là. Koundé, vraiment pas rassurant, arrière droit. Klose, quand on voit son match de jeudi soir, encore moins. Voilà, la défense s'est évacuée. Mais le milieu de terrain, c'est un domaine dans lequel, en plus, on a beaucoup moins de solutions de repli. Parce qu'avant, on est à l'heure actuelle toujours un petit peu orphelin quand même des départs, des absences de Paul Pogba et N'Golo Kanté, qui nous manquent énormément. Et Tchouaméni avait un peu pris leur place. Aujourd'hui, sans Tchouaméni, comment on fait ? Ça peut être Youssouf Fofana, qui est clairement le quatrième homme dans la hiérarchie, qui fait une excellente saison avec l'AS Monaco, mais qui n'a pas de grosse référence internationale, même s'il est dans le groupe de Deschamps depuis un petit moment. Ça peut être Eduardo Camavinga en sentinelle, c'est son poste préféré, mais c'est un poste au final auquel il est rarement aligné en équipe de France comme au Real Madrid. Et puis quand on pense aux autres, c'est... Alors Warren Zaïre-Emery, clairement, il est en train de payer un petit peu, et très logiquement, toutes ces nouvelles choses autour de son cas, tout cet emballement, son nombre très important de matchs. Donc voilà, énormément de points d'interrogation, Glenn.
Oui, et puis ce poste de sentinelle, c'est un poste clé. C'est un poste évidemment. Qui permet de tout, on en parlait tout à l'heure, de l'équilibre de l'équipe, l'équilibre du milieu de terrain. Et c'est vrai de trouver ce profil-là, c'est ce que tu dis. Moi, Camavinga, c'est un joueur que j'adore. Mais pour moi, sentinelle, c'est un rôle hyper particulier. En équipe de France, je ne suis pas sûr que ce soit son meilleur poste. Et c'est vrai, Fofana, tu l'as dit, pour moi, on n'a pas du tout les mêmes certitudes au niveau international, même s'il fait une saison très très bonne avec Monaco. C'est pas la même chose que d'aller briller sur le plan international. Du coup, ça remettrait quand même beaucoup, beaucoup de choses en question, je pense, pour Didier Deschamps. Et ouais, ça m'inquiète un peu parce qu'en plus, c'est une blessure. Il a eu à peu près le même type de blessure en octobre. Oui. Et du coup, il y a le côté rechute. En plus, en octobre, il avait quand même raté 47 jours. 47 jours, c'est 7 semaines à peu près. Ouais. C'est beaucoup plus long que ce qu'ils annoncent là. Donc, alors peut-être, évidemment, les médecins du Real ont évidemment beaucoup plus de renseignements que nous et connaissent évidemment l'entendu. C'est peut-être pas du tout la même étendue de fracture, etc. Là-dessus, on n'est pas médecin et on n'a pas le dossier entre les mains. Mais il n'empêche, ouais, ça pose quand même pas mal de questions. Et côté rechute, le problème, c'est ça. Il ne faudra pas précipiter son retour. Alors, tu l'as dit, évidemment, Didier Deschamps, c'est lui qui n'était pas très fan de ça, l'a fait récemment de prendre des joueurs blessés, je pense à Varane.
Ouais, qui avait commencé la compétition dernière, la Coupe du Monde remplaçant et qui a été réintégré.
Mais voilà, c'est quand même pas la même chose. C'est pour construire aussi son équipe, cette dynamique d'équipe. C'est pas pareil d'avoir un pilier comme ça qui ne serait pas là au début. Donc oui, en ce moment, il y a quand même pas mal de mauvaises nouvelles.
Et puis on a égrené les différents postes. Alors, le poste de gardien, quand même une interrogation. Défense, milieu de terrain. Et puis c'est toute l'ossature. Et si on va jusqu'en attaque, alors c'est le secteur le moins alarmant, mais même là, on n'est pas à l'abri de mauvaises nouvelles. Kingsley Coman, il vient de reprendre la course avec le Bayern Munich. Ouais. C'est quand même un homme important du groupe de Didier Deschamps, Kingsley Coman. Il a fait plusieurs compétitions importantes. Et surtout, moi, quand je regarde toute la potentielle liste, je me pose une question. Combien on peut citer de joueurs qui sont actuellement et au top physiquement et au top en termes de performance? J'en vois pas beaucoup. Je vois, alors, Kylian Mbappé, on sait très bien qu'il est capable après de rehausser éventuellement son niveau pour l'Euro, mais on se disait pareil avant la demi-finale retour. On n'a pas vu ça. Là, il y a un été qui va être aussi chamboulé par son départ très probable au Real Madrid. Voilà, des cadres. Alors, peut-être qu'on peut retenir Antoine Griezmann, mais qui ne fait pas une fin de saison non plus extraordinaire. Il a eu une blessure qui l'a gêné. Peut-être Olivier Giroud, mais qui n'est pas forcément un titulaire indiscutable avant cet Euro. Qui ce serait devant Giroud? Marcus Thuram. Marcus Thuram, très bonne saison à l'Inter, pas de souci, mais il manque encore ses matchs références en équipe de France. Randal Kolo Muani, je pense qu'on ne va même pas en parler. Ousmane Dembélé, c'est toujours sur courant alternatif. Voilà, qui sont les joueurs dont on se dit, ok, ils vont nous porter et ils sont en top forme pour nous porter pendant cet Euro? Pour l'instant, je n'ai pas la réponse. Après, évidemment, vaut mieux l'avoir le 14 juin au début de l'Euro, cette réponse-là, et que les mecs soient en forme à ce moment-là, plutôt que d'être en forme 3 mois avant et puis d'accuser le coup au moment de l'Euro. Mais effectivement, là, il y a un espèce de brouillard quand même au-dessus de la liste et au-dessus de l'état de forme des cadres de cette équipe de France qui peut inquiéter un petit peu.
Ouais, on croise clairement les doigts. Et puis Tchouaméni, en plus, moi, c'est vraiment c'est le lion. C'est tout ce qu'il faut. C'est le genre de joueur qui permet à une équipe de passer un cap ou pas, pour moi. Donc du coup, c'est ce que tu disais tout à l'heure. En plus, je trouve pas, même si j'aime beaucoup Fofana, pour moi, c'est quand même pas les mêmes certitudes au plus haut niveau international. Donc on croise un peu les doigts pour que Aurélien Tchouaméni revienne plus vite que prévu, ou pour, en tout cas dans les temps évoqués, les premières semaines évoquées, les quatre là. Et on espère surtout qu'il va pas y avoir d'autres mauvaises nouvelles dans les prochaines semaines.
Ouais, dans les prochains jours, prochaines semaines, parce qu'il reste des matchs de championnat évidemment à disputer, il reste des finales de Coupe d'Europe aussi. On va voir, on sera très attentifs à la liste de Didier Deschamps, on le rappelle, jeudi liste élargie. 21h, liste élargie, donc de 26 joueurs. Ça peut donner lieu à quelques surprises, à quelques jokers, on va voir. On va voir comment Didier Deschamps fait un petit peu son mélange. Sa tambouille, voilà, je cherchais le mot. Glenn, nous, on va la conclure, notre petite tambouille. Eh oui, il manque un petit ingrédient, c'est de conclure, tout simplement. Exactement. Toujours difficile de conclure. Alors, pour ceux qui n'étaient pas très attentifs au début, on le rappelle, on rabâche. Vous pouvez retrouver le FC Stream Team en tapant Eurosport Football Club. N'oubliez pas de vous abonner. On va aussi remercier ceux qui nous accompagnent, les travailleurs de l'ombre. Sébastien Ferreira, qui est à la réalisation de cette émission. Et puis Marco Popovic, qui va nous concocter les jolis visuels que vous allez pouvoir voir sur eurosport.fr dans les petites pastilles vidéo. Et puis, bah, nous.
T'as pas parlé de cloche cette fois-ci, du coup.
Non, j'ai pas parlé de la petite cloche parce que je sentais que t'allais encore me parler de Pâques et de chocolat. Et voilà, j'avais pas envie d'arriver là-dessus.
Bah, c'est
là, c'est midi, tu vois, c'est même midi et demi, j'ai un peu la dalle, donc j'ai pas trop envie que tu me parles de chocolat maintenant.
Du coup, à Maxime et Martin, mais surtout Maxime, de mettre de la crème solaire parce que sinon, ça va se payer cash.
Ouais, ouais, effectivement, nous on n'a pas ce problème-là.
Non, c'est l'avantage.
Nous, à part avoir une température de 35 degrés dans les bureaux ici, bon, Moulineau, on n'a pas d'autres problèmes. Donc, bon, on vous remercie en tout cas pour votre fidélité. Rendez-vous pour les amoureux du foot lundi dans Tour d'Europe. Et puis pour ceux qui ne jurent que par le FC Stream Team, eh bien rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle émission. D'ici
avec
là,
un allez, débrief de la liste, sûrement.
Bien sûr. Et puis d'ici là, vous allez vous régaler. Il n'y a pas que le foot dans la vie, hein, on le rappelle.
Eh oui.
Il y a le Giro que vous pouvez suivre sur Eurosport en ce moment.
Le
il
tennis
y a le
Masters avec le Master
de Rome. Il y a Rafael Nadal, il y a Novak Djokovic. Et on se régale. On se régale en ce moment sur Eurosport. Donc. Bah, continuer de nous être fidèles. Merci beaucoup, Glenn.
Merci, Arthur, de m'avoir pris par la main.
Avec plaisir, avec plaisir. Je lâche ta main et je salue nos auditeurs. Très bon week-end à tous.
Au revoir.
À la prochaine.